à ce que tu souhaites. Mais c'est surtout pour mémoire que je les inscris. D'abord sur ce que tu as pu dire à propos de l'impossibilité de l'unité du vécu, du calcul, etc. Et la question qui se pose, est-ce que l'impuissance est à l'irrémédiable ? Parce que c'est une manière de me renvoyer d'ailleurs à des questions que j'ai posées moi-même autrefois. Donc tu as répondu clairement à mes yeux, mais je veux quand même vérifier que j'ai bien compris, que non, il n'y a pas d'irréductibilité de l'impuissance, qu'il y a une, dans ton vocabulaire, très raffiné. Et alors la prudence, il y a lieu d'avérer le moderne. Très joli, très belle. Est-ce que, c'est une question, je ne te demande pas forcément d'y répondre aujourd'hui, c'est comme tu voudras, est-ce que ça a un rapport avec Lyotard ? Je veux dire, avec les questions que Lyotard a pu poser dans le différent. Il va d'ailleurs y avoir un colloque Lyotard au mois de janvier, bientôt, qui... Voilà, peut-être que... entendu parler de ça à l'école normale, entre les trois critiques et cette fameuse impossibilité qui, lui, c'est là-dessus qu'on repose la postmodernité, la vraie postmodernité lyotardienne repose là-dessus. Et donc on pourrait dire, puisqu'on parle de postmodernité, enfin, modernité, postmodernité, etc., que un des critères d'énonciation de l'apparition de ce qu'on appelle la postmodernité à la Lyotard, dans l'histoire de la modernité, si on dit que la postmodernité c'est un épisode de l'histoire de la modernité, ce serait précisément de poser ce problème. Et évidemment, il n'y répond pas comme toi, parce que lui, il pense qu'il n'y a pas lieu d'avérer le moderne. Et c'est là que je ne suis pas lyotardien du tout, moi. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, que tu as introduite en parlant d'une dimension esthétique seconde, qui n'est pas une avant-garde, mais un après-coup, et alors là, ça mériterait qu'on revienne, c'est une sur la question d'une avant-garde. Bon, parce que là, ça va un peu vite, je trouve, avec Lyotard, justement, il faudrait y revenir, justement avec Lyotard. C'était un des enjeux des immatériaux, les avant-gardes. Un des enjeux cachés. Cette analyse rapide que tu as faite, mais très intéressante, de la coupe de plan. Bon, j'ai aussi, moi, spéculé un peu là-dessus. Pas tout à fait dans les mêmes termes, mais dans des termes assez proches. Et j'ai d'ailleurs fait une conférence, je ne pense pas que tu y aies assisté, à Normal Sup, sur un texte, une réponse de Gilles Deleuze à Serge Danet, sur l'histoire du cinéma, ce qu'il appelle les trois périodes du cinéma. Et où je crois qu'il y a des questions de ce type qui sont posées. Nécessité du dépassement de l'abrutissement, comme tu as dit, de l'opération subie, autrement dit. Et toute cette question de l'inscription et de la non-mémorisation de l'inscription et tout ça, ce que tu as répété d'ailleurs en référant à Foucault, à la salle de classe et au dispositif, que moi j'appellerais rétentionnel, hein, des rétentions objectives. Parce que c'est de ça. Et quand Foucault parle de la... Moi je dis toujours, pas toujours, mais très souvent, je dis... le fait de pouvoir parler comme tu es en train de le faire quand tu écoutes, ça suppose 10 ans d'apprentissage. Rien que de rester assis comme ça. Et il y a des premiers trucs que soulignent les anthropologues qui sont allés en Amazonie. C'est qu'on ne peut absolument pas retenir l'attention d'un groupe en Amazonie, sauf à utiliser des techniques qui sont celles de l'Amazonie, mais qui ne sont justement pas celles-là. Donc l'attention... qui est le sujet de Kant, dans les synthèses, c'est quelque chose qui se produit avec des techniques de production de l'attention, etc. En tout cas, tout ça fait partie du sujet de la coupe, pour moi, c'est ce que je crois que tu voulais dire, même si, avec le cinéma, l'appareil de projection et toute la modernité, disons, ça devient objet de calcul, justement, objet de rationalité, objet d'études systématisées, etc. Tout ça, Deleuze dit, dans ce texte que j'avais commenté, qui va d'ailleurs être bientôt publié, est-ce que ça peut donner un art du contrôle ? Il pose la question, est-ce que les technologies de contrôle et les sociétés de contrôle... Enfin, il ne pose pas la question. Il dit, il faut inventé un art du contrôle. C'est extraordinaire, hein. Il dit, voilà, il y a télé, il y a tous ces machins, bon, c'était il y a un moment, hein, il y a 15 ans au moins. Il faut inventer un art du contrôle. Alors, ma question, c'est, est-ce que ça a un rapport avec ce que tu dis, voilà. Est-ce qu'on pourrait en discuter aujourd'hui, un autre jour? Et dernier point, et là, c'est le point le plus important pour moi, évidemment, parce que je réponds à Deleuze sur... Enfin, je réponds. J'essaye d'encaisser le coup de la question de Deleuze. En disant... Mais là, c'est à toi que je m'adresse. Tu dis, une véritable culture moderne, ce serait le Bildung. Il y a eu une intervention de... Comment s'appelle-t-il?
Burger.
L'actuel commissaire de la Documenta, qui a beaucoup parlé de la Bildung, je pense que ça t'aurait intéressé. Contre la culture comme amortissement, bon. Moi, je crois... Voilà, ça, c'est une thèse que tu ne vas pas te surprendre, tu la connais. Hein, que cette question... Elle doit être posée dans une interrogation des modernités et des époques dans la modernité que constituent les modernités. Pourquoi? Parce que cette question d'aujourd'hui, puisque tu parles d'un changement de ton, un changement de climat, je signale en passant que Tom Cohen est en train de monter un institut entre l'université de Buffalo et l'université de l'État de New York, dont j'arrive plus à retrouver le nom, qui s'appelle Changement climatique. Institut de l'étude des changements climatiques. Mais ce qui ne veut pas dire les changements de. Simplement des nuées, c'est des changements dans le ton général et de l'angoisse mondiale. C'est un truc qui pourrait prendre une grande importance. Il y a un changement, ça, tout le monde l'admet, de près ou de loin, bon, crise du progrès, quand on est. On ne croit plus à nos valeurs, quand on s'appelle Ségolène Royal, on dit ça comme ça. Mais il y a un changement, tout le monde l'admet, Sarkozy aussi. La question c'est, où, évidemment, où et comment on caractérise ce changement? Moi j'avance une thèse là-dessus. Je pense que la question, c'est celle... d'une individuation, nouvelle condition d'individuation. Je pense d'ailleurs que ça enchaîne sur Foucault, sur les travaux de Foucault. Et que cette question, elle doit, pour être traitée, passer par justement une distinction dans des époques de la modernité. Je vais dire par là. Actuellement, il y a un énorme débat qui se démarre et ça ne fait que commencer. Ça va se développer, je le crois, c'est une des hypothèses de l'IRI, de l'Institut de Recherche et d'Innovation, d'une manière massive dans les 10, 20 ou 30 ans qui viennent. Pour autant que Dieu nous prête vie, ce qui est une question réellement posée, qui est ce que nous appelons parfois la question de l'amateur, et ce que Ségolène Royal appelle la question de la démocratie participative. La volonté de participation. Ah non, mais attends, j'y viens. Non, ça fait 10 ans que je pose le problème. Et ce qui m'énerve, c'est que cette dame pose le problème si mal. Mais elle le pose. Elle est un symptôme. Elle n'est qu'un pauvre symptôme, mais elle est un symptôme qui sera sûrement présidente de la République bientôt, donc on va bien être obligé d'en tenir compte.
C'est peut-être un diagnostic.
En tout cas. Ce que je veux dire, c'est que, moi ça fait des années, c'est à Birkheim que j'ai commencé à développer ce discours sur la perte de participation. Bon. Cette perte de participation, elle est induite par des structures hypomnésiques, et ça c'est un langage de Foucault justement, qui produit ce que j'appelle de la dissociation. Je veux dire que la culture dont tu parlais, qui conduit à la séparation, ce que tu as appelé la prudence, en préférant Aristote au début, au vécu, d'un côté le calcul de l'autre, c'est une culture qui conduit à un processus de dissociation. Je prends le mot dissociation par référence négative à ce que, si Simondon appelle positivement l'association, la culture de l'association, l'individuation comme association et comme association, où se produisent des milieux associés. Alors, je dis cela parce que ma proposition, et je m'arrête là-dessus, pas forcément pour cette séance, mais de toute façon j'y reviendrai dans la séance que je ferai moi, bien sûr, qui est bientôt, là, c'est au mois de décembre, c'est ça ?
C'est pas la prochaine,
c'est ça. C'est de dire, ces questions que tu désignes toi-même comme de mémorisation et d'inscription sont des questions pour moi de grammatisation. C'est-à-dire que, donc d'hypomnésis. Et elles sont posées déjà par Platon. Lorsque Platon dit, lorsque Platon fait dire à Socrate, mon petit Phèdre, fais gaffe avec ces logographes, parce que tu ne vas pas mémoriser, tu vas inscrire. Il parle déjà de l'abrutissement dont tu parles là. Il est déjà dans une question, je dirais pas de relève, là le mot relève je le trouve quand même super connoté, parce que c'est Hegel quoi quand même, hein, c'est, on peut difficilement le reprendre autrement que chez Hegel. Or il y a d'autres voies que Hegel. Et c'est pas forcément une dialectique qui rouvre de l'avenir. Nietzsche dit une nouvelle croyance par exemple. C'est pas une relève la croyance. En tout cas, moi, ma proposition, c'est quand même de dire pourquoi est-ce que nous n'essayerions pas avec ta proposition, qui consiste à dire il y a de l'inscriptible non mémorisé, etc., passé par le choc de Benjamin. Pourquoi est-ce que nous n'essayerions pas, je ne vais pas fourguer ma dramatisation à tout craint, c'est d'ailleurs pas la mienne, c'est celle de Roux, c'est celle de Derrida, enfin, c'est pas celle de Derrida, mais c'est ce que j'essaye de combiner entre vous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça présente un avantage, c'est que ça s'inscrit dans un temps beaucoup plus ancien que la modernité et la modernisation. Et ça permet aussi d'écrire des modernités et des processus. Je veux dire, moi mon souci, hein, c'est une obsession sur laquelle je reviendrai systématiquement, c'est nous devons, parce que nous sommes en train de préparer un colloque au Centre Pompidou, qui va s'adresser à des centaines de gens, et à travers ces centaines de gens, à des milliers de gens, nous devons parler du présent et des enjeux du présent. Et dans des termes audibles, par le présent tel qu'il se présente, si je puis dire, et tel que nous ne sommes pas le présent. Là, je veux dire que, et je lance un propos qui va peut-être paraître extrêmement trivial tout à coup, il y a un nouveau milieu associé. Le milieu d'Internet, ce que j'ai appelé moi la société hyper-industrielle, qui est celle du numérique d'Internet et aussi des nanotechnologies, etc. C'est pas la modernité telle qu'on a pu la connaître au 19e, et encore moins au 18e ou 17e. Et elle doit être instanciée. Mais alors, dans les termes de ce que tu dis, voilà, je serais demandeur qu'on ait une discussion très thématique. Sur des questions comme ça, qui sont des questions très politiques, très techniques, dans les termes de ce que tu dis. Et j'ajouterais juste un mot, en posant optimisme, pessimisme, c'est pas le problème. Le problème, c'est la volonté. Volonté. Ce qui est évidemment une rupture radicale avec les déconstructionnistes, les postmodernes, etc. Mais c'est la volonté au sens de Nietzsche. Pas au sens de Descartes. Je veux dire par là que chaque fois qu'on me demande est-ce qu'il faut être optimiste, je renvoie les gens qui me posent la question en leur disant mais pas le problème, c'est de vouloir. Bon, et après on verra bien si on est assez fort pour vouloir ou pas. Mais il n'y a pas lieu d'être optimiste. C'est ce que disait, c'est la phrase exacte de Deleuze. Il n'y a pas lieu d'être optimiste ou pessimiste.
Mais sur ces termes, je suis d'accord. D'ailleurs, je vais dire enfin, c'est un peu stupide comme réponse. Je ne les ai pas écrits. Je les ai dit pour
marquer quelque chose, pour tourner autour d'une formule que j'ai pas. Mais je suis d'accord que optimisme et pessimisme n'est pas.
N'est pas. Une volonté,
oui, on est bien d'accord. Mais bon, il y a des éléments sur lesquels il m'est difficile, disons, de répondre. Tout de suite, en particulier la question sur Deleuze, parce que il y a un élément d'information que j'ai pas, c'est-à-dire je connais pas le texte auquel tu viens de faire référence, donc je mesure pas, je crois, l'enjeu, en tout cas pas ce soir, l'enjeu exact de la question. Un peu en vrac, je suis pas sûr de réagir tout à fait là où tu le souhaites, mais disons, bon, je suis d'accord aussi sur la façon, je dirais, je sais pas comment dire, de flirter avec le différent de Lyotard et la façon à la fois d'être tout contre ça, quoi, dans une certaine mesure, sans y être. De toute façon, enfin, si je peux faire référence, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Le différent esthétique, bien entendu. D'ailleurs, je l'ai dit dans ce livre, il s'agit de travailler à la marge de quelque chose que dit Lyotard. Et d'ailleurs, je compte revenir un petit peu là-dessus, peut-être pas ce soir, j'aurais probablement pas le temps, mais la prochaine fois, hein, de façon un peu plus organisée. Et je dis il y a lieu d'avérer le moderne en étant relativement conscient de l'enjeu. Je pensais réagir tout de suite sur deux points à ce que tu viens de dire. Le premier, c'est que, alors, je ne sais pas comment dire, j'ai encore du mal à penser l'hypothèse qu'on serait dans une situation qui ferait époque si on donne à ce mot un sens fort qui consisterait à dire que ce qui nous, je sais pas comment dire ça, ce qui nous travaille aujourd'hui suspend la grande phase moderne dans sa structure d'événementialité profonde. D'ailleurs, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui reste de cette lancée-là, même si ça touche au mode de la phénoménalité d'une façon qui est évidemment inattendue. Voilà. Mais qu'elle soit inattendue, cette façon, est-ce que ça nous amène ipso facto à penser qu'elle est en rupture avec ce qui s'est fait jusqu'à présent ou ce qui s'est produit jusqu'à présent? J'ai choisi l'exemple de la coupe au cinéma pour des raisons un petit peu stratégiques dans mon cheminement de pensée assez complexe dans son énonciation, parce que je pense qu'on a là affaire à quelque chose qui, dans une certaine mesure, déjà... est-ce que c'est vraiment un phénomène, une coupe de plan, quoi? Dans quelle mesure c'est un phénomène? Enfin, ça pose des problèmes qu'on va peut-être pouvoir, grâce à cet exemple-là, il va servir de référent, disons, à la façon de poser des questions sur ce qui maintenant nous travaille, sans immédiatement postuler le fait qu'il s'agirait de quelque chose qui serait, dans une certaine mesure, sans antécédent. Enfin, je sais pas comment dire ça. Voilà. Donc je reste assez réservé. Mais sinon, je suis d'accord, évidemment, complètement d'accord sur le fait qu'il faut travailler. Bon, c'est ce que j'essaye de faire autant que je peux avec les étudiants que l'université, dont l'université me confie, si j'ose dire, non pas la responsabilité d'eux-mêmes, mais de leur travail. Bon, ce sont des choses, évidemment, que je pense qu'il faut absolument faire. Enfin, c'est-à-dire, il faut poser les questions que je viens d'essayer de poser avec le cinéma dans un contexte technique qui n'est plus seulement celui du cinéma.
En termes de structure et d'époqualité, au sens de toi,
ça je suis tout à fait d'accord. Mais je pense que après, bon, évidemment, moi je pense qu'on arrive. Il y a un problème, ce que j'appelle un double redoublement épocal, qui n'arrive pas à se faire. Je pense que depuis deux siècles, ce double redoublement épocal n'arrive pas à se faire. Je veux dire par là qu'il y a dans la grammatisation, il y a des époques. Ça ne veut pas dire que une nouvelle époque de la grammatisation efface tout ce qui précède. Ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire simplement qu'il y a un nouvel agencement qui se produit, tout simplement. Et sauf que cet agencement fait époque, parce qu'il y a des époques. Moi, je sais qu'il y a des époques. Je le sais de manière comme Aristote dit à un moment donné, je sais qu'il y a de la couleur. Et il dit, évidemment, un aveugle, ça, j'aurais toujours beaucoup de mal à le prouver qu'il y a de la couleur. Mais moi, je sais qu'il y a de la couleur. Bon. Après, qu'est-ce que c'est que la couleur? Ça, c'est un autre problème. Ou Augustin dit, je sais qu'il y a du temps. Bon. Après, si on demande ce que c'est que... Bon. Mais, c'est pour ça que je propose ce concept de grammatisation. Parce qu'il permet à la fois de dire, par exemple, ces questions de coupe fonctionnent déjà dans l'écriture. C'est précisément pour ça que Platon en parle. Et donc, ce n'est pas du tout la modernité, tout ça. Mais en revanche, l'apparition de l'appareil de projection cinématographique, par exemple, produit des questions épocales. pas au sens très fort que ce mot peut avoir en phénoménologie, et a fortiori chez Heidegger, avec la fameuse époque de l'être. Ça, c'est pas du tout le... Hein? Mais en revanche, il y a quand même, à un moment donné, Simondon dirait de la transindividuation et de la métastabilisation. Il y a des trucs qui se transindividuent, qui se métastabilisent, on appelle ça, par exemple, l'âge baroque, on appelle ça, voilà. Tu vois, c'est simplement ça que je voulais dire. Excuse-moi, je voulais pas t'interrompre, mais...
Non, mais là, je suis d'accord, effectivement, sur le mot époque, il faut savoir si on le prend dans un sens radical, disons, ou
celui que tu viens de préciser. Donc, dans ce cas-là, je suis d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Je pense qu'à propos de l'individuation, je pense que nous sommes, dans une époque, au sens sur lequel nous tombons d'accord, nous sommes dans une époque qui serait caractérisée par ce que moi j'essaye d'appeler la masse diffuse, le caractère diffus de la... ça, c'est peut-être quelque chose qui est arrivé, je dirais, relativement récemment, hein, c'est-à-dire ce que j'appelle une audience, hein, l'audience, c'est-à-dire le fait qu'il y a des... Enfin, on pourrait dire des comportements de masse qui ne s'éprouvent pas dans l'expérience d'une masse rassemblée, par exemple, compactée dans un espace-temps limité. Hein. Et ce phénomène, c'est pas le bon mot. Je sais pas comment dire ça. Cette donnée de la masse diffuse, qui est évidemment quelque chose qui est constitué par des pratiques ou par des usages plutôt d'appareils. Une audience, ça se constitue grâce à la télévision, grâce à la radio, grâce à enfin, toute une série, évidemment, de données techniques. Peut-être la tâche, si je garde ce mot, qui est devant nous, pour laquelle il faut que nous ayons une certaine appétence, pour ne pas dire volonté, je ne sais pas. La tâche qui est devant nous, c'est justement de, comment dire... je cherche le bon mot, hein. Je propose d'une certaine manière nous relever avec ça, il y a le re qui fait problème dans cette affaire, hein. Et je j'avoue être dans l'embarras pour trouver le bon mot. Enfin, il faut faire avec, en tout cas.
Soigner.
Oui, ça c'est bien, oui. Voilà. Il faut qu'on... Ça, ça me va bien, effectivement. Je ne l'avais pas dans l'esprit tout de suite, mais voilà, il faut qu'on prenne soin de nous avec ça. Hein, et je suis d'accord sur ce que tu dis par ailleurs concernant le nous, c'est-à-dire prendre soin de nous avec ça, ça veut dire dans le nous, évidemment, c'est pas le on, le nous, c'est chacun d'entre nous parmi quelque chose qui structure finalement ce chacun. Parmi nous. Donc il faut que chacun d'entre nous soit effectivement un chacun d'entre nous avec l'expérience désormais répandue de ce que j'appelle l'audience, c'est-à-dire la masse diffuse, hein, l'expérience des masses diffuses qui sont elles-mêmes pas des masses présentes à elles-mêmes dans une certaine mesure, hein, puisque quand j'entre dans un dispositif d'audience, je ne m'éprouve pas comme membre d'une masse, bien que je le sois, etc. Donc on voit se redoubler tous ces éléments. C'est quelque chose qui évidemment ne peut pas se traiter concrètement et pratiquement aujourd'hui sans impliquer une analyse et une pratique, je dirais, de Internet, enfin tous ces éléments de la technologie récente. Voilà. Alors, la dernière chose peut-être que je pourrais dire, en tout cas ce soir, en réponse à ton propos, ça toucherait... moi je dirais les choses comme ça, j'ai un verbe modeste à proposer, ce qui est nécessaire à nous, ce qui nous est nécessaire, c'est quelque chose que je nommerais dans le registre du commentaire de l'expérience, du commentaire de... C'est-à-dire, dans commentaire, je fais entendre le petit mot mens qui se trouve à l'intérieur, donc qui renvoie à mémoire. Hein, et je pense au fond que nous ne pouvons pas expliquer notre expérience, mais il importe que nous puissions la commenter. c'est-à-dire l'accompagner de quelque chose qui est une façon de faire mémoire, qui d'ailleurs ne liquide pas, si j'ose dire, dans une explication l'expérience, mais qui la commande. Peut-être, disons, l'abrutissement, peut-être ce que Benjamin appelait une conscience amortie, c'est-à-dire une façon d'amortir le choc par ce qu'il appelait des habitudes. Enfin, disons, peut-être cet état d'esprit-là, c'est l'état d'un esprit qui est abandonné à une expérience non commentée. Voilà. Donc c'est de ce côté, c'est une proposition modeste. Je pense qu'il faut travailler ce terme-là. En tout cas, moi, il faut encore que je le travaille, mais j'irai de ce côté. Ce qui fait au fond, ce qui fait le malaise, c'est la prégnance parmi nous d'une expérience non commentée, quelque chose de ce type-là.
Ça, c'est entre l'impression et la mémoire.
Voilà.
Juste une petite remarque un peu en contrepoint. Je pense qu'il serait utile peut-être d'insister sur tout ce qui nous a préparé à la modernité. Parce que quand on parle de l'avènement du moderne, c'est ce que tu as fait dans la première séance, tu as noté tout ce qui était insaisissable, tout ce qui en quelque sorte nous déconcertait. Et donc, ça tend évidemment à faire de cet état d'immaîtrise ou de déconcertation une espèce de phénomène transversal à toutes les étapes ou toutes les périodes de la modernité, si on emploie le terme période. Moi, ce qui me paraît important d'insister, après avoir admis cette rupture-là que tu dis, qui est l'essentiel, c'est quand même à quel point on a été préparé malgré tout. Par exemple, Bernard insistait, comme un des traits constitutifs de la modernité, sur la calculabilité. Mais je m'en suis aperçu en retravaillant pour interroger Le Goff que ça, c'est vraiment les acquis, dans un groupe bien restreint et pour des fonctions bien restreintes, du XIIe, XIIIe siècle. C'est-à-dire à la fois l'invention d'un certain type d'horloge que j'ai oublié qui permet de réellement compter les heures, la capacité d'introduire une comptabilité, et puis surtout la possibilité de faire les comptes de tes péchés, et donc l'invention du purgatoire, ce qui permet aux marchands de retrouver dans l'existence une certaine stabilité, etc. Et de proche en proche, évidemment, cette capacité est très importante parce que c'est la capacité qui permet par exemple aux paysans, alors que c'est une invention, si on veut, très très ancienne, de s'approprier très progressivement la seulement triennale et le fait tout simplement de ne pas se retrouver à court de semences entre deux années, puisque jusqu'aux OGM exclus, on avait besoin des semences précédentes pour replanter. Et on pourrait, d'une certaine façon, à condition de savoir que c'est juste une nuance par rapport à l'idée de rupture, généraliser le propos. Par exemple, la vitesse des locomotives, etc., on peut dire que, et encore plus pour les machines volantes, longuement imaginées, mais en même temps, toute la société matérielle y a tendu, en quelque sorte. Il suffit de voir Stendhal et ses voitures de poste pour retrouver sa belle et revenir dans un temps record, etc., etc. Donc, il y a comme une attente de la société aussi, même si ce qui arrive la déconcerte, il y a comme une attente de la société qui est aussi une attente politique. Il suffit de voir, même si à chaque fois il y a transfiguration, transformation, etc., il suffit de voir la réutilisation des matériaux de ce que sont les mouvements paysans égalitaires dans la pensée marxiste, la pensée de Marx, plus précisément. Il y a ce truc qui travaille et qu'on va réutiliser. Donc, en même temps qu'on est déconcerté par la modernité, on peut dire que nous n'avons pas cessé, que nous ne cessions pas de l'attendre. Alors que ce qui nous arrive, nous n'avions ni espéré ni attendu.
Si je peux me permettre.
Je t'en prie.
Par rapport à ce que tu viens de dire, tu as évidemment tout à fait raison. Mais je pense que plus justement, une des questions de la modernité, et c'est peut-être une des choses qui est en jeu dans ce que disait
dans ce que dit Pierre Damien depuis le début, c'est la normalisation. Enfin, c'est, parce que, évidemment, que les horloges des moines du XIIe et du XIIIe siècle sont la, Marx l'a dit, hein, il y a de très beaux textes de. De, comment s'appelle-t-il ce type de la SCR, là, philosophe
Ben
Saïd, où il parle, où il fait les commentaires de les technologies du temps. Là. Mais la question, c'est, à part, je crois que la modernité, moi, c'est la, ça, c'est la question de la massification. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces choses-là deviennent, et c'est ça que tu appelais tout à l'heure la calculabilité comme inscription, deviennent ce qui constitue le social. C'est plus quelque chose qui se constitue dans le social, autour, dans les monastères, dans les... C'est ce qui constitue le social. Et ça, ça me paraît très 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 important de bien comprendre que...
le fait que quelque chose existe... Mais c'est pas ça que... Si je disais ça, c'était pas pour en quelque sorte noyer la fracture. C'était pour dire que dans la... pour reprendre la formule, la tâche d'Averroès moderne, etc., relever ou soigner... nous étions peut-être malgré tout et malgré notre surprise, nous étions plus équipés et que c'est comme, c'était des choses qui étaient secrètement attendues et parfois profondément espérées et que je pense que ce qui nous arrive, nous ne l'avons pas attendu, nous ne l'avons pas espéré.
Je ne sais pas si le prolétaire attendait secrètement la prolétarisation.
Non, ça c'est vrai, mais c'est là évidemment où il faudrait introduire dans une analyse aussi générale la question des dyssynchronies par rapport aux différentes classes sociales et par rapport et au sein de chacun de nous. Mais il faut dire aussi que cette préparation faisait que cette immense misère qui a surgi, parce que ce n'est pas un progrès. Il y avait des outils pour la dominer. Et par exemple, si on revient à cette histoire du nous, la construction du nous dans la première modernité, elle avait les matériaux à transformer de la construction du nous d'une époque qui était antérieure, que je ne sais pas trop comment nommer, puisque par exemple, Le Goff propose qu'il n'y ait qu'une seule période de la fin de l'Antiquité jusqu'à la Révolution industrielle. Bon. Donc il y avait... Et je pense que on a le sentiment aujourd'hui que, et appuyé sur une certaine réalité, que nous disposons pas des matériaux, disons, pour relever, soigner, reconstruire, etc., que justement les outils du nous, si on peut dire, ne sont pas du tout ceux que nous avons à mettre en œuvre. Et cela tient aussi, pour être en rapport, bon... là, les formulations récentes de l'école de Francfort, donc Axel Honneth, l'idée du retournement, c'est-à-dire que ce qui avait été des acquis, des conquêtes, etc., brusquement se relève en face, mais pas seulement comme la marchandise chez Marx, mais ce qui avait été des choses arrachées deviennent des instruments de soumission, d'abrutissement, justement, et non plus de conscience. Et là, ça fait évidemment brisure. Mais je pense qu'on ne peut pas aborder cette question sans aborder quelques défaites politiques majeures, proprement politiques. Défaites politiques majeures. Défaites.
Oui. Je ne sais pas si je peux peut-être m'appuyer sur ça pour proposer discrètement une transition et d'enchaîner. Parce qu'en fait, les questions que je voulais commencer à formuler sont peut-être pas exactement celles que tu viens d'aborder, mais il y a quand même quelque chose qui est proche, quoi. Justement parce que j'ai utilisé dans le texte que j'ai sous les yeux, que je m'apprête à dire d'une certaine mesure, le rapport à cette notion-là de défaite, le rapport de la... De l'arrivée du moderne avec le fait que ça ne peut peut-être pas se produire sans impliquer quelque chose qui serait bien nommé par le mot défaite. Sauf que je me retrouve avec le même problème que précédemment concernant, disons, la localisation dans le temps historique de cette affaire,
que moi je serais assez prêt à penser comme structurel, disons, et non pas localisé dans l'histoire. Donc je reste avec le problème. Peut-être on peut aussi dire plus de façon plus circonstancielle que alors sous réserve que les historiens justement apportent des informations sur ce genre de questions. En tout cas aujourd'hui, il me semble que nous sommes dans une situation paradoxale au sens fort du terme. C'est-à-dire qu'à la fois, on peut même dire, à partir du moment où finalement il s'agit de quelque chose qui forme l'expérience, on ne peut pas s'en passer. Peut-être même s'agit-il de quelque chose qui est, je ne sais pas comment dire ça, en deçà ou au-delà de la question de la volonté qu'on pourrait avoir du monde, de la situation qui est faite pour nous quoi, dans ce monde. Alors, par ailleurs, d'un certain point de vue, je vais y revenir, ou dans certains espaces du monde, le moderne est désiré, est voulu. Et en même temps, il est critiqué. Alors, je crois que c'est ce paradoxe aussi qui est profondément, qui nous perd, dans une certaine mesure, ou par rapport auquel, dans un premier temps en tout cas, nous sommes extrêmement désorientés. Donc je propose peut-être d'une certaine manière, si vous voulez bien, d'enchaîner, et puis je garde en mémoire la question. Moi je voulais, si vous voulez, donc justement commencer à formuler quelque chose qui implique le politique, et je voulais le faire en ayant à l'esprit deux références majeures. L'une, et cette première référence a donné lieu, si vous voulez, à un premier état de mon travail préparatoire. C'est une conférence faite récemment au Centre Pompidou par Fethi Ben Slama, qui a évoqué, je vais revenir sur cette formule, la façon dont le moderne se glisse, je le cite, sans cri ni chuchotement, dans un certain nombre de sociétés, au sein desquels il se développe, au sens, je dirais, strict du terme, des réactions, des formes littéralement réactives ou réactionnaires. Et Fethi Ben Slama, par rapport à cette situation sur laquelle je vais revenir un peu plus précisément tout à l'heure, a dit, par exemple, au passage, que dans ces formations sociales et politiques où la réaction est extrêmement forte et violente, la crispation, le sursaut, si vous voulez, par rapport au moderne est extrêmement violente, la traduction d'Aristote demeure un enjeu. C'est-à-dire, c'est quand même intéressant, me semble-t-il. De toute façon, on vient de dire dans la discussion il y a quelques minutes que peut-être certaines des données avec lesquelles nous pouvons penser notre situation implique de passer ou de repasser par Platon, ou en l'occurrence par Aristote. Donc je voudrais faire jouer ces références-là. C'est-à-dire, à la fois, qu'est-ce qui fait au fond que ces pensées sont des pensées qui sont, même si on ne le sait pas, mises en jeu. Voilà. Donc ça c'est une première référence, et il y en a une seconde qui est venue modifier la première intention que j'avais quant aux propos que je vais essayer de développer. C'est l'ouvrage de Jean-Pierre Dupuis, Pour un catastrophisme ouvert, je ne sais plus, j'ai un trou.
Éclairé.
Hein, éclairé, oui, mais je ne sais plus, c'est pour ouvert. Enfin, j'ai une toute petite hésitation.
Pour
un catastrophisme éclairé, hein, c'est ça. Voilà. Alors ça je dirais, chemin faisant, si vous voulez, comment ce que je propose est une façon de faire incident ou incidence par rapport aux propos de Jean-Pierre Dupuis tel que je l'ai compris. Donc voilà, je voudrais partir, si vous voulez, donc de la considération suivante qui revient une fois de plus à la querelle historique, enfin une fois de plus pour moi, qui revient à la querelle historique des anciens et des modernes. Dans cette querelle-là, le moderne est apparu comme un mouvement d'opinion décidé, si j'ose dire, à valoriser les novations. Il en est résulté, comme on sait, comme vous savez, un paradoxe. Je vais très vite. Ce paradoxe est celui qui est lié à l'inachèvement de principe du moderne, de ne pouvoir jamais, au fond, stabiliser le jugement sur ce qu'il en est de nous dans une situation moderne. De là, donc, par exemple, comme j'ai pu le proposer précédemment, que le moderne nous fuit. C'est un mode jamais achevé, ni saisi, ni arrêté, toujours en cours, donc, des poussées historiques. On peut dire ça, le moderne, des poussées historiques sans fin. Bon. Est-ce à dire pour autant que, si le moderne c'est ça, que les anciens, autrefois, et ceux qui restent de culture traditionnelle aujourd'hui, n'ont jamais été capables que de défendre l'idée d'un monde dans lequel, au fond, il n'y aurait pas de poussée historique, et un monde, par conséquent, qui serait toujours le même, hein, ou finalement un monde dans lequel la culture aurait pour vocation de préserver le même, hein, ou de préserver quelque chose que je vais finir par appeler, disons, l'identité. Bon. Non, bien sûr, non, bien sûr. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu de culture, même celle qu'on appelle traditionnelle, qui se soit voué au fond à une incapacité radicale à faire de la place au neuf. Donc le problème est que il y a façon de faire la place au neuf et façon de faire la place au neuf. Dans une culture, disons, traditionnelle ou dans un mode de pensée que j'appelais la première fois classique, il y avait aussi un sens de l'inédit et de la poussée. Si vous voulez. La différence tient, me semble-t-il, en ceci que chez les classiques, dans les cultures de la tradition, l'invention n'est jamais radicale, elle est toujours tenue à une méthode. Pour traduire ce langage, cette proposition dans un langage qui serait plus proche de nous, je dirais que l'invention, prise dans son acception classique, ne présuppose pas de nouvelles conditions du travail. La puissance des modes productifs existants est par conséquent supposée capable de s'illustrer, si j'ose dire, de nouveau. Elle n'a pas à changer de nature pour cela. Dès lors, la notion de savoir-faire transmissible est une notion pertinente. Le moderne, en revanche, ne cherche pas le nouveau dans le renouvellement. Il commence par faire autrement la même chose, c'est-à-dire il déplace la méthode. Comment cela peut-il se réaliser? Comment un savoir-faire peut-il être mis en cause s'il est vraiment savoir? C'est la question. Réaliser, cela veut dire, aujourd'hui en français, faire, produire, hein, mais ça veut dire aussi comprendre, prendre en compte. Ma thèse, ou mon hypothèse, enfin ma proposition, jouant dans son énoncé sur les deux significations possibles du verbe « réaliser », consiste ou consistera précisément à dire que là où le moderne se produit, se réalise au premier sens du terme, il n'est pas de ce fait même, ipso facto, réalisé au sens au deuxième sens du terme, c'est-à-dire compris ou pris en compte, ou, bien que ce terme me laisse plus perplexe, je dirais, pour aller vite représenter. C'est subrepticement, par conséquent, que le moderne s'installe dans une culture, j'en ai déjà parlé, et qu'il en dérange les formes et les valeurs. Alors, dans sa conférence récente, Fethi Ben Slama, qui parlait des pays pour lesquels le nom d'islam constitue un enjeu identitaire, un plus à identifier, disait-il, il affirmait aussi dans cette conférence que la modernité, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, s'y était glissée dans ces pays-là, dans ces espaces-là, sans cri ni chuchotement. Eh bien, je crois qu'il en aura toujours été ainsi, où que ce soit. Mais je ne crois pas non plus qu'on puisse soutenir cette thèse, il en a toujours été ainsi, le moderne se glisse dans les cultures sans cri ni chuchotement, on ne peut pas soutenir cette thèse sans impliquer un propos sur le souverain. Si l'espace culturel dont parle Fethi Ben Slama vit si difficilement et si violemment le processus de modernisation qui l'affecte, c'est parce que ce processus, je dirais comme toujours sous réserve évidemment de la discussion que nous essayons d'élaborer, mais mettons si vous voulez, je fais cette proposition, hein, le moderne comme toujours Donc si le processus aujourd'hui peut être vécu si difficilement et si violemment, c'est parce que, comme toujours, il a pris en défaut une souveraineté et qu'il l'a, pour ainsi dire, obligé au sursaut réactif. Je dirais donc, moi, pour ma part, d'une manière générale, qu'il faut réaliser, en un sens, un tel défaut du souverain pour que le moderne s'entame. Ou que le moderne s'entame sur cette, je sais pas si on veut dire, sur cette base-là, hein, qu'il a réalisé, en un sens de ce terme, le défaut du souverain. Ce processus, je l'ai dit, il est, dans mon hypothèse, effectif avant d'être réflexif. Alors je voudrais désormais en aborder l'enjeu politique. Et je voudrais établir, pour commencer, que même s'il ne s'inscrit pas au registre de la violence souveraine, ce processus, cette entame du souverain et ses effets ne sont pas sans violence, même si ce n'est pas une violence qui, je dirais, prend la forme ou la tournure propre à la violence souveraine. Donc, je voudrais, dans certaines mesures, proposer de distinguer deux sortes de violences. Le processus par lequel le moderne s'insinue ou s'installe invite à penser une violence qui n'est pas souveraine dans sa manifestation, et en particulier une violence qui échappe à l'étatisation de la violence. Alors, c'est une formule compliquée. Moi, je n'arrive pas. Je ne sais pas si quelqu'un y arrive, mais en tout cas, moi, je n'y arrive pas. Il y a des fois où je voudrais parvenir à dire nettement beaucoup de choses en même temps, et c'est évidemment impossible. Mais quand je parle ici d'échapper à l'étatisation de la violence, j'ai quand même évidemment en tête les formules qui disent que l'État a le monopole de la violence légitime, hein, bien entendu. Et donc, je vais jouer, en fait, dans le cours de mon exposé sur les deux registres de référence possibles qui sont celles de la philosophie politique, disons, telle qu'elle s'est formée et formulée dans l'Antiquité, mais aussi j'ai en tête un certain nombre de formules qui procèdent de la philosophie politique moderne, hein, dite moderne, enfin au sens de Hobbes, Locke, etc. Alors, cela étant dit, ou ces considérations d'approche, si vous voulez, étant posées, je vais passer pour traiter mon sujet par un biais, hein, peut-être inattendu, qui est le suivant, c'est que j'ai lu récemment, je l'avoue, c'est une expérience récente, j'ai lu récemment Hérodote, d'un bout à l'autre. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette lecture, ou plutôt si je commence à savoir pourquoi j'ai fait cette lecture maintenant. Je me suis intéressé dans cette lecture tout particulièrement, ou j'ai été intéressé tout particulièrement dans ce texte, par la façon dont Hérodote a décrit les manifestations du souverain absolu et les conditions de sa défaite. Parce que finalement, on peut lire l'enquête d'Hérodote comme étant l'histoire de la défaite par les Grecs de la souveraineté absolue, hein, de cette forme de souveraineté qui s'incarnait, disons, dans le grand roi et dans l'État perse, hein, si vous voulez, en expansion. Expansion qui s'est trouvée arrêtée donc par la victoire des Grecs. Alors, avant le combat décisif, hein, le grand roi qui s'apprêtait à attaquer le monde grec a manifesté sa force. Voilà. Il l'a fait de diverses manières. D'abord, disons, sur un temps historique relativement long, il a développé une politique de grands travaux qui a bouleversé le monde, qui a bouleversé les voies de communication, qui a bouleversé l'économie. Hérodote parle de tout ça assez clairement. Avant de s'engager dans la bataille, donc il y a eu des grands travaux qui ont d'ailleurs permis à l'armée, à l'immense armée, de se déplacer, etc. Enfin, Hérodote évoque que cette entreprise militaire du grand roi est une entreprise qui aura donc générer un certain nombre d'innovations, si j'ose dire, dans le monde, hein, qui en tout cas modifiait, créait des ponts ici, modifiait des structures agraires, enfin, etc. Donc le grand roi n'est pas, si vous voulez, je le mets dans la lignée de ce que j'évoquais tout à l'heure, il est le tenant, si vous voulez, d'un mode traditionnel de la culture, mais pour autant il n'est pas incapable, ce mode-là n'est pas incapable de réaliser, sous certaines conditions, du nouveau dans le monde. Mais le grand roi ayant fait tout cela, s'étant préparé ainsi à attaquer les Grecs, juste avant de s'engager dans la bataille décisive, a voulu très curieusement se donner le spectacle de son armée et de sa flotte. Il a fait manœuvrer l'un et l'autre pour son plaisir, aussi bien que pour faire impression, afin de contempler l'énergie de sa royauté, aussi bien qu'afin de la rendre spectaculaire. On sait qu'ensuite, une fois l'affrontement déclaré, il a perdu. Quels étaient donc ses adversaires? Comment sont-ils parvenus à prendre le pas sur une puissance aussi pareillement manifeste? Eh bien, la réponse tient peut-être en ceci. Les Grecs ne formaient pas l'ennemi attendu. Leur force était d'une autre nature. Elle était faite d'une intelligence surprenante, une intelligence non théorique, cette métisse, cet art de ruser avec le monde qui a été naguère si bien mis en valeur, comme vous savez sans doute, par les travaux de Jean-Pierre Vernant et Marcel de Tienne, cet art de ruser avec le monde dont Ulysse le voyageur serait au fond peut-être, dont j'ai déjà parlé, la figure mythique. L'enquête d'Hérodote établit à sa façon que la victoire des Grecs, qui au moment décisif se trouvaient sans unité de commandement, Hérodote insiste beaucoup là-dessus, ils discutaient encore sur ce qu'il convenait de faire lorsque Léonidas et les siens se faisaient massacrer aux Thermopyles, et donnaient d'ailleurs le temps décisif à la flotte grecque de préparer sa ruse. Enfin, je vous renvoie au texte. Donc, l'enquête d'Hérodote établit que la victoire des Grecs qui se trouvaient au moment décisif sans unité de commandement tient paradoxalement à cette absence de forme souveraine de l'unité de la nation. Il n'y avait pas de souverain grec, il n'y avait pas de démonstration de force souveraine en Grèce. Au lieu de la souveraineté, à sa place peu à peu évidée, hein, à la place devenue vide, si vous voulez, du souverain, processus historique qui se serait passé entre la guerre de Troie et la réforme de Clisthène, qui a institué la démocratie, dans cette période-là, les Grecs, comme vous savez, avaient inventé la politique et poussé cette invention jusqu'à donner forme à un régime démocratique et jusqu'à donner consistance à la notion d'espace public. Cette invention impliquait pour se réaliser une idée qui n'était pas et qui n'est pas encore partout partagée. Cette idée, c'est la séparation de l'humain et du divin. Il ne peut pas y avoir, enfin, en tout cas la politique au sens de l'invention grecque, est fondée sur, évidemment, le fait que les humains doivent, au fond, se gouverner eux-mêmes, se piloter eux-mêmes, s'orienter eux-mêmes, sans s'appuyer sur de l'a priori ou du transcendant. Donc il y a une séparation de l'humain et du divin. Bon, je sais bien que la mise au point, si vous voulez, de cette invention est une affaire extrêmement complexe dans la Grèce. Mais disons, pour aller vite, ils sont parvenus à inventer cette idée de la politique et cette notion d'espace public fondée, au fond, sur la séparation de l'humain et du divin. Cette idée-là, hein, qui forme en profondeur la politique, pouvait se constituer chez les Grecs et se dire dans le mot même par lequel ils nommaient la loi, nomos. En grec, c'est-à-dire démarcation. Mais dans la démarcation de l'humain et du divin résidait aussi, me semble-t-il, la démarcation de la liberté et de la nécessité. L'idée foncière de la nomos grecque, de l'idée grecque de la loi, consistait à ouvrir l'esprit à une temporalité indécise. Elle donnait à l'humanité un avenir et l'obligation de mettre en discussion, de parler, comme dira Aristote, le décisif. Donc je fais allusion ici assez fortement aux propos de Fethi Ben Slama, hein, qui dit justement que le devenir non violent des États musulmans est lié à la possibilité ou pas de parler. Il ne le dit pas comme ça, hein, c'est, je pense que je suis tout de même proche de son propos, de parler le décisif, hein, c'est-à-dire finalement de faire de la politique, et non pas d'être dans un régime de souveraineté absolue, si vous voulez. Bon. Donc l'idée foncière de la nomos grecque, c'est de donner à l'humanité un avenir et l'obligation de mettre en discussion, de parler le décisif. Bien sûr, c'est jusqu'à un certain point seulement que les Grecs ont découvert les principes constituants de la politique. Il n'empêche, leur idée de la politique impliquait nécessairement celle d'une humanité libérée d'a priori transcendants concernant son propre gouvernement, son propre pilotage, sa conduite. Alors de cette idée, le grand roi ne pouvait imaginer la dynamique, malgré la présence à ses côtés de quelques conseillers grecs, comme nous le mentionne Hérodote. Il manquait, si j'ose dire, de l'intelligence rusée qu'autorisait et libérait l'esprit grec. Il comptait sur la force et non sur la puissance. Si j'insiste ce soir sur cette incompréhension de la puissance par ceux qui pensent en termes de force, c'est parce que, pour nombre de nations, dont d'ailleurs de nouveau l'Iran, la question de la modernité s'est ouverte et réouverte, ou réouverte, si vous voulez, depuis une défaite. Ces peuples, et l'un des interlocuteurs de Fethi Ben Slama dans la salle qui s'est présenté comme algérien, militant du FLN de la première heure, etc., a évoqué cette question. Hein. Si nous avons été colonisés, c'est parce que nous étions colonisables. Je tourne autour de ce type de problème. C'est-à-dire, les sociétés souveraines, si vous voulez, ont été entamées avant même que, finalement, la défaite se manifeste. Hein, ça serait un peu ça, l'idée, si je la simplifie terriblement. Voilà. Donc la question de la modernité s'est ouverte ou réouverte dans un certain nombre d'espaces aujourd'hui, depuis une défaite. Ces peuples défaits, si vous voulez, hein, ou qui ont été défaits, se demandent, comme autrefois le grand roi, comment ils ont pu être défaits, comment leur esprit traditionnel n'a pas su se défendre, c'est-à-dire comment ils étaient susceptibles de défaite. Toutes ces questions sont posées dans une logique de rapport de force, les unes, certaines forces, ayant vaincu les autres. Or, en deçà de la défaite visible, de la force manifestement vaincue, il y a, me semble-t-il, une expérience sous-jacente, paradoxalement non éprouvée, qui est celle de la victime. Les peuples souverains défaits le sont parfois du fait de leur incapacité à se repérer comme des êtres accidentés, entamés, frayés. La souveraineté peut être une pensée naïve de l'humanité, une pensée qui considère l'humain comme attaché à la naissance, à la nativité, au donné, au reçu, à l'hérité. La politique dont les Grecs ont inventé l'idée admet en revanche que les États sont à construire, à faire, à réaliser. Moi, cette idée, dans une certaine mesure, c'est ça que je veux dire. Je prends beaucoup de précautions, je pense qu'il faudra y revenir et en reparler. Cette idée elle-même ne peut pas se réaliser sans entamer quelque chose chez les peuples souverains. Cette politique dont les Grecs ont inventé l'idée, se localisant elle-même, pour ainsi dire, dans le champ de l'artificiel humain, suppose et entretient un certain détachement des peuples à l'égard de leur naïveté nationale ou naïve, et à l'égard, en tout cas, aussi d'une certaine idée de la souveraineté. Et ce qui opère ce détachement, je rejoins ici à ma façon le propos de Fethi Ben Slama, c'est d'avoir à parler sa constitution, son organisation, ses lois, ses arrêts, ses décisions. Peut-être un tout petit mot de plus. Dans le différent esthétique, je vous m'excuserez de citer mon propre travail, analysant justement le propos d'Aristote, je me suis efforcé d'établir le lien radical qu'il faut faire entre la parole, entre, si vous voulez, cette idée grecque de la parole et la technique. L'idée des animaux politiques, qui aura éloigné les humains d'être conçus, au fond, comme des enfants de Dieu, et l'humanité d'être tenue par le divin, cette idée, formulée par Aristote, mais dont, je tiens à le dire, la méditation a été entamée par Platon, hein, parce que je pense que Platon fut aussi un enjeu dans toute cette affaire, cette idée, donc, est inséparable de celle des animaux parlants. L'animal politique, l'idée d'animal politique n'est pas séparable, alors Aristote le dit dans le même texte, les hommes sont des animaux politiques, c'est-à-dire parlants. Bon. Mais la parole à son tour, on peut le montrer depuis Aristote, hein, et a fortiori aujourd'hui, en empruntant un nombre de travaux anthropologiques, n'est pas concevable sans la technique. Son premier enjeu chez Aristote, c'est la mise en discussion des limites de l'utile. C'est-à-dire qu'Aristote dit dans le fameux texte « L'homme un animal politique, c'est-à-dire parlant », et je saute quelques lignes dans le texte, il ajoute au fond « De quoi parle-t-on ?» Quand on parle, de quoi parle-t-on? Quand il s'agit vraiment d'une parole, c'est-à-dire de politique, réponse de l'utile et du nuisible, du juste et de l'injuste. Donc je voudrais installer un tout petit peu de temps la réflexion autour de cette valeur-là, l'utile. Et en particulier autour du fait que Aristote oppose pas banalement l'utile à l'inutile, mais l'utile au nuisible. Bon, et que, évidemment, il s'agit d'une opposition signifiante. Je reviendrai plus tard sur ce que, apparemment, je laisse de côté, à savoir la distinction entre le juste et l'injuste. Hein. Donc, mon idée, si vous voulez, c'est que le premier objet de la politique, tel qu'en tout cas nous le propose Aristote, c'est l'utile. C'est de parler l'utile. Hein. C'est d'élaborer de la parole quant à l'utile et quant à la distinction entre l'utile et le nuisible. La pensée grecque dont Aristote s'est fait témoin, si vous voulez, a estimé que l'humanité n'était pas tenue à la stricte reproduction de ses conditions de vie, mais qu'elle était ouverte au contingent, car finalement la définition de l'utile est extrêmement proche de celle du contingent. Hein, au fond, on peut dire « est utile tout ce qui n'est pas nécessaire ». C'est ce que révèle chez Aristote le fait que « utile » n'est pas opposé à « inutile » mais à « nuisible ». Est utile tout ce qui n'est pas nécessaire, peut être considéré comme utile tout ce qui n'est pas nécessaire, entrant alors éventuellement dans le registre de l'utile au sens large des utilités qui pourraient être nuisibles, et il va falloir justement parler l'utile, si j'ose dire, hein, parler quant à l'utile pour éviter l'avancée, le fait que l'humanité est vouée à la technique, c'est-à-dire au fait de produire dans une certaine mesure ses conditions de vie, le fait que l'humanité est ouverte au contingent, enfin toutes ces notions, si vous voulez, se recoupent, et donc au fond être voué à la parole, avoir affaire à l'utile, c'est-à-dire être un être qui n'est pas tenu par le nécessaire, hein, qui ne vit pas ou qui ne se trouve pas, j'allais dire seulement, mais même on pourrait dire pas du tout, hein, il suffit de pas y être un peu, dans le nécessaire, mais qui est donc ouvert au contingent, tout cela fait au fond d'une certaine mesure système. Donc, si vous voulez, la pensée grecque a estimé que l'humanité n'était pas tenue à la stricte reproduction de ses conditions de vie, mais qu'elle était ouverte au contingent, au non programmé, au non décidé d'avance, au non réglé d'avance. Et c'est ce qui s'exprime dans la formule de l'animal politique. Cet animal est voué à l'existence et à l'historicité. Il n'a pas pour vivre de limites a priori. Il a au-devant de lui des possibilités. Ce principe d'ouverture à l'existence, c'est-à-dire à une forme non programmée et non liée de la vie, a été affirmé par la pensée grecque de manière générale. Alors, d'où vient qu'un tel principe puisse à son tour, comme il semble bien aujourd'hui, être si mal vécu? C'est-à-dire, comment se fait-il que cette ouverture de notre être à l'utile, c'est-à-dire au contingent, c'est-à-dire cette échappée de principe au nécessaire, d'où vient que cette vocation qui est la nôtre d'être, d'avoir affaire à l'utile, d'où vient qu'elle puisse être aujourd'hui si mal vécue. D'un côté, il y a des réactions de forces souveraines qui veulent ignorer la puissance de la parole et des utilités, les choses me semblent liées, hein. Réaction dont justement Fethi Ben Slama analyse les motifs et les modes de violence. Mais cette nécessaire explication, je ne crois pas qu'elle épuise le sujet, car il n'est pas aisé, d'un autre côté, d'être voué aux utilités et à la parole. Alors, je donnerai à cette difficulté deux raisons. La première va s'exposer dans l'analyse de la notion même d'utilité, la seconde dans le caractère justement second de la parole et de la politique dans les sociétés non natives. Bon, je suis un peu embarrassé par le temps. Bon, je ne sais pas quoi faire, parce que je vais m'engager dans une démonstration que je crains fort longue. Est-ce que je peux la remettre dans le détail à la fois prochaine? Est-ce que il y a suffisamment, même si ça reste encore très général, matière à discussion?
Tu répètes peut-être les termes de la démonstration que tu vas reprendre la prochaine séance.
Oui. Ouais. Je cherche à comprendre pourquoi, ce qui fonde, on pourrait dire, la politique, le fait d'avoir à parler la communauté, finalement, hein, etc., puisse être donc qui est lié, le principe qui est lié fondamentalement au fait qu'on admet l'être humain au monde comme étant un être technicien voué à ne pas être réglé d'avance, tenu par le nécessaire, etc. Donc tout ça étant finalement quelque chose à quoi on pourrait disons donner une valeur, je ne sais pas comment dire ça, positive. Comment cela peut être si mal vécu? Alors, c'est mal vécu de deux façons. C'est mal vécu parce que ça produit ici ou là des réactions de souveraineté entamée, mais c'est aussi mal vécu là où la politique s'est déjà installée de longue date, et c'est le problème justement. Mais le malaise n'est peut-être pas le même ici et là, il n'est pas de même nature, le type de problème politique qu'il pose n'est pas de même nature. Alors, je crois que cette difficulté, pour la comprendre, il faut l'analyser, ou je propose de l'analyser en deux temps. Premièrement, en étudiant la notion même d'utilité, et la deuxième, en étudiant le caractère, irrémédiablement second, là aussi pas secondaire, mais second, de la parole et de la politique, dans ce que j'appelle les sociétés non natives, c'est-à-dire finalement dans les sociétés qui ont déjà rompu avec les modes archaïques ou traditionnels de la souveraineté. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement à ta demande.
C'est très excitant, maintenant, tout ça. J'ai passé quelques jours à Moscou, là. J'ai eu l'impression, mon voyage ne me compare pas assez fait comme tout le monde. J'ai eu l'impression tout à coup de saisir quelque chose que j'arrivais pas à gripper depuis des années et des années, en allant à Moscou, que je connais bien parce que j'y ai enseigné pendant 3 ans. Mais je n'y étais pas allé depuis 12 ans. Enfin, pendant 3 ans, je suis pas resté 3 ans à Moscou, mais 3 années de suite, j'ai fait des cours à Moscou. Et là, je suis allé donc passer 4 jours à Moscou, au cœur de Moscou. Et d'un seul coup, j'ai vu un truc que je vois depuis des années, mais que je n'arrivais pas à attraper. C'est qu'il n'y a pas de bourgeoisie. il y a un capitalisme, un commerce incroyablement dynamique. Il y a des bagnoles partout, des Bentley, des Rolls-Royce, des Jaguars, c'est incroyable. Hein. Il y a la mafia partout. D'ailleurs, le conseiller culturel de l'ambassade de France m'a dit tout le commerce appartient aux mafieux. Absolument tout. Alors, mafieux, qu'est-ce que ça veut dire hein? Mafieux, ça veut dire capitaliste, d'une certaine manière. Mais il n'y a pas de bourgeoisie. J'en parle parce que je pense que c'est un des enjeux très importants de ce que tu viens de dire. Je reviens en arrière. La question de l'inachèvement de principe du moderne, la question de la poussée historique, l'envahissement hégémonique tout à coup du sentiment historique qui existe depuis très longtemps, mais qui d'un seul coup, et Hegel est le premier à le dire, d'un seul coup devient le commun des mortels. Le commun des mortels sait qu'il est historique. C'est pas parce que Darwin, c'est bien avant Darwin d'ailleurs, non. Mais il se passe d'un seul coup un truc qui est un changement de régime de production des comportements ordinaires, de la vie quotidienne. Ça advient avec la bourgeoisie, avec ce qu'on appelle la bourgeoisie. Avec la bourgeoisie, c'est pareil. La bourgeoisie, ça fait très longtemps qu'elle est là. Mais la bourgeoisie, comme étant ce qui devient le là de la société, c'est ça. Et ça, c'est le 19e siècle. C'est le siècle de la bourgeoisie, le 19e siècle. Ça, c'est un nouvel agencement entre l'être et le devenir, à mon avis. Je veux dire par là que ça n'est possible qu'à partir du moment où ce qui était de l'ordre de la nécessité, du nécessaire, pas de la nécessité, du nécessaire au sens dont on parlait tout à l'heure, par quoi Aristote qualifie ce qui relève de l'apodictique, donc du raisonnement démonstratif, etc. Et ce qui était de l'ordre de la contingence, ce qui relève de la technique, parce que l'apodictique c'est l'épistémé, c'est-à-dire la philosophie, qui est en réalité la science. Et ça c'est un truc vraiment très important, n'oublions jamais que ça fait très peu de temps qu'aujourd'hui la philosophie est autre chose que la science, très peu de temps. Et à mon avis, ça ne va pas durer. Parce que ni la science, ni la philosophie ne pourront continuer sans être de la science et de la philosophie. Ça, j'en suis absolument certain. Ce n'est pas du tout scientiste ce que je dis là. Au contraire, c'est l'anti-scientisme. Mais, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la science, c'est-à-dire la philosophie, Newton écrit un traité de philosophie, de métaphysique. Nous, on le lit comme de la physique, mais lui, il écrit comme de la métaphysique. C'était opposé à la technique. Bon. Et de près ou de loin, mais c'est une constante, même s'il y a eu des tentations, des tentatives de Vico, de Bacon, d'ébranler tout ça, il y a toujours des signes annonciateurs. Bon. Mais il n'en reste pas moins que, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, il y a certes du nouveau, pour revenir à la question que tu posais, il y a du nouveau, il est admis, il est reconnu, mais à l'intérieur d'un être dont il doit rendre raison, et c'est le fameux principe de raison de Leibniz. C'est-à-dire qu'il faut bien que toute chose a sa raison, et il faut que la ratio puisse rendre raison. Donc la technique, c'est ce que dit Kant dans le fameux texte Théorie et pratique, la technique n'est technique que provisoirement. L'artilleur ne sait pas comment il fait les trucs, mais le balisticien saura rendre compte de toute façon, à un moment donné, par calcul intégral et différentiel, etc. On rendra compte de tout, absolument de tout. Donc il n'y a absolument pas d'hétérogénéité technique. Et ça, je crois que c'est déjà vrai chez Aristote. Et ça se poursuit jusque à Kant. Mais ça change avec Hegel. Mais quand je dis avec Hegel, je veux dire avec un contemporain de la révolution industrielle, parce que c'est pas Hegel qui est à la cause du changement, c'est la révolution industrielle. Et cette révolution industrielle, elle dit d'un seul coup, c'est fini cette opposition entre la science et la technique, et il n'y a plus une science qui dirait ce qui est et une technique qui ferait devenir ce qui est, mais il y a une technoscience qui est une technoscience du devenir, et il n'y a plus d'être. L'être, il y a un renversement qui se produit, l'être devient un cas de métastabilisation provisoire. On appellera ça à un moment donné une conception du monde, Weltanschauung. On appellera ça de 36 000 manières, mais le devenir s'est introduit, et c'est ça la modernité. Le devenir est rentré dans la société comme la loi. Jusque-là, aucune société, aucune, ne considérait que le devenir pouvait faire la loi. Le devenir était toujours un accident. C'était toujours une illusion. C'était toujours quelque chose qui a... Oui, il y a du devenir, etc. Mais il y aura, à un moment donné, une réconciliation, une rédemption du devenir. Et le devenir, à un moment donné, s'appelle le diable. Et diable vient de diabolon. Et diabolon a le radical dia, qui veut dire temps. C'est-à-dire devenir, transformation. Le diable change l'ordre des choses, et Dieu remet les choses à leur place. C'est-à-dire remet en ordre. Et dit, mais non, tout ça, c'était une illusion diabolique. C'est du vent. En réalité, tout revient toujours au même. C'est la question du même et de l'autre, qui est déjà l'obsession de Platon. Enfin, c'est la grande question de Platon. Alors, mais Platon, qu'est-ce qu'il cherche à faire, Platon ? Il cherche à dire tout ça, cette illusion, y compris en politique, qu'il y a du multiple, hein, c'est une illusion. On arrivera à la race publique, à la république, à la politéia, à la cité idéale et tout ça. Il y a une cité idéale. Autrement dit, cette pensée est une pensée eschatologique, de près ou de loin. Quelle qu'elle soit, qu'elle soit grecque, qu'elle soit juive, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit musulmane, ou qu'elle soit martienne, alors c'est là que c'est compliqué. Là que ça devient tout à coup compliqué. Elle est eschatologique. Et c'est là où on peut dire le marxisme, la pensée marxienne n'est peut-être pas encore totalement moderne. Puisque tu disais, allons-y vers la... Alors moi je dirais, voilà, est-ce que peut-être Marx n'est pas encore vraiment un philosophe moderne, et qu'est-ce que peut-être nous ne nous sommes pas plantés dans l'interprétation de ce qui a été de la modernité. Nous les marxistes, moi je me mets dedans en tout cas, et je m'y maintiens, en pensant que Marx était un moderne. Est-ce que la question n'est pas de dire, mais finalement, Marx n'est peut-être pas vraiment un moderne. Ou en tout cas, pas complètement. Alors, tu as posé une... C'était magnifique ce que tu as dit sur la violence, l'étatisation de la violence, la Perse, etc. Enfin, c'est vraiment formidable. Je crois qu'au XIXe siècle, la bourgeoisie apparaît comme ce qui va chercher à organiser la modernisation comme processus, et ce processus de modernisation, il va exiger un État qui est souverain, mais qui est une nouvelle forme de la souveraineté. Ça s'appelle la souveraineté du peuple, de l'opinion, et qui va se configurer historiquement sous une forme très précise qu'on appelle le capitalisme. C'est-à-dire que ça, c'est très très important ici de faire intervenir le capitalisme, c'est-à-dire qu'il y a une économie de tout ça, c'est fondamental. Et ce capitalisme d'État, qui passe par l'affirmation d'un État, c'est un capitalisme nationaliste, même si régulièrement il vient, le marché déjà là, Paul Yanni, etc., montre que déjà il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, et Marx lui-même. Mais il y a il y a quoi ? Il y a une organisation du devenir. C'est-à-dire que oui, on pose qu'il y a du devenir. Ce devenir est devenu, dans la sphère économique, absolument irréductible. Il n'y a plus de limites à la marchandisation, il n'y a plus de limites à la production de biens, etc. Mais pas dans toutes les sphères encore. Pas dans la famille, par exemple. Pas dans la religion. Parce que la bourgeoisie est religieuse. La bourgeoisie est familiale. La bourgeoisie est, comme on le dit, nous les marxistes, conservatrice. Et puis j'arrive à Moscou et je me dis, putain, c'était beau l'époque où il y avait encore des conservateurs. Pourquoi ? Parce que leur religion essaye de tenir ensemble ce que j'appelle, c'est pas moi, c'est les Romains, l'ossium et le négocium. Qu'est-ce que c'est que l'étatisation de la violence ? Eh bien, c'est ce qui tente, dans le défaut du souverain, mais en affirmant la souveraineté du peuple, enfin, depuis ce truc dont Marx dit, c'est de la foutaise, hein. C'est l'arnaque qui sert à masquer la réalité du processus. Bon. Et qui maintient qu'il y a encore une sphère intouchable, sacrée, etc. Bon. C'est ce qui va tenter cette étatisation de la violence, de, moi je dis dans le langage simondonien, de métastabiliser les effets de cette violence. Qu'est-ce que c'est que cette violence ? C'est le devenir qui détruit, c'est le désenchantement. C'est ce que Weber appelle le désenchantement. et qui détruit lentement, mais sûrement et de manière absolument systématique, tout ce qui peut résister au devenir. Ce devenir s'appelant le capitalisme. Et ce capitalisme n'étant que l'organisation sociale de la technoscience. Je ne chercherai pas à dire que la technoscience est la cause du capitalisme ou réciproquement, ça ne m'intéresse pas du tout ces questions-là. C'est un phénomène global qui se développe. Alors, nous vivons aujourd'hui une désétatisation de la violence. Alors là, en Russie, alors avec un Poutine qui par ailleurs reconstitue un État, c'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué. Parce que l'État est redevenu très très fort en Russie. Mais c'est un État totalement mafieux, à mon avis. Hein. Bon. Et donc c'est très très compliqué ces processus. Parce que ce que raconte Fethi Ben Slama, moi je me suis dit, la Russie c'est plus moderne que l'Europe aujourd'hui. Puisque ça produit des acteurs économiques qui ne sont plus des bourgeois. Sont absolument plus. Alors là, c'est vraiment frappant. Ils ne connaissent rien. Ils sont d'une vulgarité absolument effrayante.
Ils n'ont pas lu Weber.
Ils n'ont pas lu Weber. Et ils n'ont même pas lu Marx. Non, c'est incroyable. Hein, ça va peut-être changer, hein, d'ailleurs. Bon. Alors, voilà. Ce que je voulais dire pour réagir sur ce que tu disais, qui est vraiment formidablement intéressant, c'est que, bien sûr, il y a du nouveau dans la société des Grecs et tout ça. Et même avant, même chez les Perses, comme tu l'as dit. Mais je crois que même chez Aristote, il est arraisonné, parce qu'Aristote appelle une cause finale qui est une cause finale. Cette cause finale, je m'y intéresse énormément, moi, en ce moment, je parle toujours d'elle, on l'appelle Dieu, déjà chez Aristote, Théos plus exactement, ce qui ne se traduit pas forcément par Dieu, mais ce qui se regarde dans tout objet du désir. Moi, c'est comme ça que je le traduis, le tête. Qui se contemple dans cet objet du désir. En revanche, Aristote pose une question fort importante que justement Platon ne pose pas et que tu as souligné, c'est qu'Aristote, il dit qu'il y a deux dimensions à la cité. Déjà, l'utile, c'est-à-dire le négocium, et le juste, c'est-à-dire l'osium. Et là où je crois que nous sommes très désorientés, pour ne pas dire bien pire, c'est que nous sentons, nous, mais qui que nous soyons, moscovites, parisiens, pauvres universitaires parisiens, riches universitaires chicagoans, iraniens, modernistes, et pourtant soutenant les mollahs ou soutenus par les mollahs, et il y en a plein. Je suis allé en Iran l'année dernière, j'ai vu à quel point c'est compliqué aussi cette affaire. On accuse parfois. Comment il s'appelle, Kiarostami, d'être assez finalement complice des mollahs. Et c'est sûrement pas faux. Mais on comprend pas que c'est vachement compliqué et que c'est nous qui voyons de trucs. Bon. En tout cas, je veux dire que où que l'on soit aujourd'hui dans le monde, à mon avis, on s'inquiète de la destruction de l'osium par le négocium. Et là, je crois que je reviens à ton point d'avant, de tout à l'heure, ce que tu as appelé une question esthétique, c'est cette question-là, pour moi. Moi, je pose, c'est ce que je défendrai dans ce colloque, je pose que un négocium qui anéantit l'osium se détruit inévitablement. C'est un effet d'auto-immunité, comme disait Derrida. Il entre dans un processus auto-immunitaire. Et donc, il faut que ce soit une étatisation de la violence ou autre chose. Mais il faut une instance qui va articuler. Il faut relire Aristote, autrement dit. Hein. Il faut une instance qui va articuler l'osium et le négocium. Et faire que ça négocie, justement. Avec l'osium. Et sans l'éliminer. Et c'est pour ça que je tiens dans le colloque à ce qu'on termine. On verra, on en parlera ensemble, mais, et avec Roger, mais sur la question de la désymbolisation. Parce que le symbolique, l'osium, il n'y a pas de symbolique sans osium. Enfin, pour moi, ni réciproquement l'osium sans symbolique.
En tout cas, la question de la parole, c'est pas ce qui me reste à poser, et la question de ce qui distancie cette parole, enfin, ce qui est sa condition de possibilité.
Donc la démarche vers laquelle j'oriente mon raisonnement, finalement, elle consiste à dire deux choses, c'est-à-dire répéter encore une fois un peu différemment ou poser de nouveau la question du devenir des utilités, il y a toute une série de questions autour de ça. Et puis, alors, il y a aussi l'idée de déplacer, par exemple, je pensais, mais ça, il faudrait que je le dise mieux, par rapport aux propos de Jean-Pierre Dupuis, de déplacer le champ de ce à propos de quoi nous avons intérêt à la parole, de la limite utile nuisible vers la limite, la délimitation juste injuste. C'est-à-dire que il y a, me semble-t-il, un certain oubli de cette démarcation-là dans ce qui occupe finalement, je sais pas comment dire ça, c'est plus de la politique, c'est ce qui se dit dans l'État moderne, quoi. Ce qui se dit dans l'État moderne, finalement, évitant la question du juste et de l'injuste, ne laisse qu'une part de la politique ouverte à l'opinion, disons, et du coup anéantit la politique elle-même ou la parole elle-même. Bon, c'est un peu ça le propos vers lequel je m'oriente. Voilà.
Si on a encore quelques minutes. Oui, moi ce que je souhaite dire là maintenant m'est inspiré à la fois par le dernier propos de Bernard Stiegler, mais aussi par le fait que, visiblement, bon, je ne sais pas si vous reprendrez la question, les questions évoquées par Jean-Pierre Dupuis la prochaine fois ou pas. Bon, peu importe, mais moi en tout cas, je souhaite faire une sorte de complément. Tout à l'heure, quand Bernard disait le devenir s'est introduit, voilà ce qui s'est introduit à ce moment-là dans ma tête. Si la modernité c'est le devenir, l'organisation du devenir, pour moi c'est le probable. Et donc là, pour moi, la société moderne c'est la société du probable, donc du risque. Et je me dis que, au fond, peut-être ce qui se passe aujourd'hui, le risque auquel nous serions, devant lequel nous nous trouverions, c'est de la sortie de la société du risque. C'est-à-dire, on était dans la société du risque depuis le début, par exemple, de l'ère industrielle, et nous en sortirions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Très, très vite, hein, et presque de manière caricaturale et télégraphique. La société moderne, c'est celle du risque, c'est-à-dire, c'est celle d'abord de la caractérisation très précise du risque, de ce que c'est. On est arrivé toujours, depuis 200 ans, à caractériser très précisément le risque. À mettre en place d'ailleurs des appareils sociaux de régulation, des assurances, etc., qui étaient faits vraisemblablement pour accompagner une volonté collective, consciente ou inconsciente, de dépénalisation individuelle vis-à-vis de l'acte risqué. Donc je veux dire, les lumières, l'individu, la conscience de l'individu, c'est la possibilité de prendre des risques. Et donc, quelque part, la dépénalisation de l'acte risqué pour assumer une forme de liberté. Et peut-être, mais là j'avance sur des œufs, c'est une configuration très maturée de l'individuation psychique et collective par une transmission qui devient vraiment qui est élégante, qui est arrivée à son terme presque. Sans transmission, pas d'individuation psychique et collective claire, assumée, presque sereine. Donc ça, c'est la société du risque. Et ce qui se... Donc procéduralisation généralisée, etc. Donc à la limite, sortie du politique. Quand on procéduralise à outrance, on sort du politique. Et ce qui arrive aujourd'hui, c'est que peut-être nous sommes en train de sortir de la société du risque. Contrairement à ce qu'on veut bien dire dans, ici et là, on sortirait la société des risques, c'est-à-dire on rentrerait dans quelque chose dans lequel le risque n'est plus caractérisable. Il n'est plus caractérisable. Si Dupuis a raison, s'il dit, mais de toute façon, le problème c'est qu'on sait tout, mais le problème c'est qu'on ne croit pas ce qu'on sait, et qu'on sait qu'on va tous dans le mur, mais on ne veut pas le croire, tant pis pour nous, on y va quand même, bon. Mais ce risque que lui énonce, et dont avec moi, vous penserez peut-être que, curieusement, il est rentré dans nos représentations, il commence à rentrer très rapidement dans nos représentations. Ce risque, au fond, il est plus caractérisable s'il s'agit effectivement aujourd'hui de considérer que, bon, au fond, les Gaulois avaient raison. Je veux dire, il est temps de s'amuser on s'est amusé pendant 2000 ans, hein, puisque c'est jusqu'au moment où le ciel nous tombera sur la tête. Et le ciel est en train de tomber sur la tête avec les changements climatiques. Faut rigoler avant que le ciel nous tombe sur la tête. Et le ciel est en train de nous tomber sur la tête. Et donc, le système des assurances, bien sûr, ne peut plus fonctionner. Je me souviens d'ailleurs d'un article dans une revue du MEDEF il y a 5-6 ans, dans lequel il y avait un article de Luc Ferry qui répondait à un... est-ce que c'était Kessler? J'en sais rien. Bon, peu importe. Du MEDEF, Kessler disait « Oh là, il faut revoir complètement le système des assurances, là, parce que ça va plus, hein !» nous, on n'est plus d'accord, là. Il se passe des choses, là, qu'on n'arrive plus à caractériser. Qu'est-ce que vous allez nous faire assurer maintenant? Mais vous ne vous rendez pas compte, là. Tout fout le camp, là. Alors, les changements climatiques, les machins, les trucs, etc. Donc, je vais plus vite, je m'arrête. Si le système des assurances ne peut plus fonctionner, le risque n'est plus caractérisable, si le système des assurances ne peut plus fonctionner, on peut craindre, d'ailleurs, le retour... de la pénalisation généralisée de chacun par chacun. On peut entrevoir une nouvelle couche de nouvelles formes de violence à venir auxquelles on avait été plus ou moins protégé pendant un siècle, avec une forme d'irresponsabilité généralisée, et je boucle mon raisonnement, irresponsabilité généralisée, c'est-à-dire une incapacité de réponse, c'est ça l'irresponsabilité. Une incapacité de réponse à des questions que l'absence de transmission pour la première génération qui soit, absence de transmission, n'aura pas permis de poser. Et on ne répond qu'à des questions. Or, si la transmission n'a pas permis de poser des questions de manière à ce que les nouvelles générations prennent le relais, le problème est c'est une aporie. Donc la question de l'éducation psychique et collective se poserait aussi en ces termes-là, c'est-à-dire il n'y a pas où elle se fait mal parce que précisément on ne peut pas offrir une réponse à des questions qui n'auront pas été posées. Pardon, j'ai été trop long.
Je ne sais pas, ce que j'essaie de dire c'est ceci, je pense que l'avancée moderne, si vous voulez, travaille la loi, c'est-à-dire
qui est quand même quelque chose qu'on peut lier à la parole. Hein, en fait, l'avancée du moderne, disons, travaille la loi et la parole de telle sorte qu'aujourd'hui, en tout cas, dans une certaine mesure et de plusieurs manières, le politique est excédé. Alors, il faut entendre cette phrase dans toutes ces variations possibles, c'est-à-dire que le politique est excédé ici et là, pas de la même manière, parce que disons, les états de réception de la modernité et le degré d'avancement, pas de la modernité, du moderne, pardon, les états de réception du moderne et les degrés d'avancement du moderne est tel que, ici ou là, la façon dont la politique est excédée, c'est-à-dire la possibilité de parler la différence entre utile, nuisible et juste, injuste, qu'il ne faut surtout pas oublier, donc voilà. Je pense, enfin, j'ai entendu une partie de votre intervention comme impliquant, sans le dire, quand vous analysez le risque, la question du principe de précaution. Donc, moi, c'est une question que je compte ouvrir, enfin, rapidement, mais quand même ouvrir la prochaine fois, consiste à demander si, finalement, une certaine façon de formuler le principe de précaution ne consiste pas précisément à excéder le politique.
Effectivement, c'est la sortie du politique, c'est ce qui nous guette, si je dis une banalité, c'est ce qui nous guette alors que c'est maintenant qu'on en a vraisemblablement le plus besoin.
Oui, tout à fait. Cette sortie, et le problème, c'est qu'il faut savoir si cette sortie du politique, elle est, quelque chose qui excède la politique au sens de l'au-delà, ou est-ce que c'est une réaction. C'est la question sur je peux essayer de former la question, la traiter, évidemment, appartient. À la communauté des parlants. Ça me paraît aller de soi.
Je pense que c'est une question intéressante qu'on va reprendre, parce que c'est un des modes de critique, même si cette question, ça n'est pas tout ce qui a été fait, du bouquin de Beck.
Bien sûr, c'est ça l'enjeu.
Dès les trois premières phrases, parce que, en fait, de façon très naïve, de façon qui évacue le politique au moment où il croit le réintroduire, il explique en gros que le risque maximal auquel nous sommes tous, ou potentiellement maximal, auquel nous sommes tous confrontés, comme ça, il emploie cette formule, comme ça évacue la question de l'autre, ça fait qu'on va tous être mobilisés. Mais là, c'est justement la politique qui l'évacue. Si nous évacuons le fait qu'on se mobilise aussi pour l'autre à partir de ses conditions d'existence, etc., on n'est pas prêt à traiter autrement comme une fatalité, ce que vous disiez, on risque d'en être prêt à traiter autrement comme une fatalité le risque en question. Mais là, il le voit bien en parlant d'un risque, d'un retour à une conception médiévale du risque. Et c'est assez, ce qui est aussi amusant. Évidemment, j'étais très sensible à ce que tu disais sur la bourgeoisie, puisqu'on avait parlé juste auparavant de Godelier qui cherchait désespérément la bourgeoisie en France, et c'est vrai que la retrouver définitivement évacuée en Russie, c'était significatif. D'autant plus que on aurait pu aussi, comme la bourgeoisie était plus ancienne que le capitalisme, même si elle ne donnait pas le là, elle était quand même plus ancienne, on pouvait imaginer qu'elle lui survivrait. Qu'en tant que classe éclairée, dominante, ayant intériorisé un certain nombre de catégories, elle serait capable de conduire d'autres développements. Ouais. Cette dissolution dans l'économique, en fait.
Si on pouvait faire des cartographies, ce que j'appelle des atlas de ce type de questions, pas en posant les choses, mais en interrogeant les choses, de ce genre de trucs. Ou, par exemple, on pourrait dire, il y a une modernité bourgeoise, puis maintenant une oligarchique. Enfin, si on pouvait, je pense qu'on ferait quelque chose d'utile. Parce que, je parle pour le colloque là, parce que je pense que ça obligerait à ça délirait des langues. Parce qu'on est dans l'omerta aujourd'hui. On est dans une espèce de... Bon, moi je viens de passer 3 jours à Moscou avec des gens qui m'ont fait venir là-bas uniquement pour que je discute avec Rancière. Et c'est passé par la Suède, mais c'est vrai, hein. C'était une stratégie, moi. Et d'ailleurs, la discussion a eu lieu, je trouve, tout à fait au dernier moment, en dernière heure. C'est extrêmement difficile. On a beaucoup de mal à... Je dis ça parce que, en t'écoutant parler de la bourgeoisie, et en écoutant ce que vous venez de dire du risque, parce que la bourgeoisie, c'est la classe du risque. C'est la classe du risque qui prend les risques.
Oui, mais comme un destin individuel aussi.
Oui, c'est collectivement, bien entendu. Mais c'est en ce sens-là que et c'est là que Beck est à la fois intéressant et limité.
Avec, pour revenir à mon propos antérieur, la formulation de chevalier d'industrie qui, au niveau purement comme ça,
métaphorique renvoie à l'époque antérieure.
Mais ça renvoie, enfin, toute cette discussion-là renvoie à un terme qui est finalement très... qui est presque interdit par rapport à la question de la modernité, c'est celui de l'héritage. Et où finalement la question de la modernité se poserait, poserait la question du devenir dans celle de l'héritage, que la bourgeoisie serait l'articulation de cela à l'héritage, et que la période contemporaine, par rapport à cette question de l'héritage qui est celle de la transmission, aujourd'hui se pose uniquement en termes de dilapidation.
Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Alors, par rapport à ça, quand je parlais d'omerta et de connexion à faire, Milner a écrit Le salaire de l'idéal, Jean-Claude Milner, qui est un discours sur la bourgeoisie. Et si nous arrivions à faire que se connecte Milner avec Ulrich Beck, non pas qu'ils discutent ensemble, parce que ça, je crois que ni l'un ni l'autre ne sont prêts, mais ça n'a pas d'importance que nous arrivions à articuler des questions. Parce que ce sont deux mondes totalement incompatibles. Bon. Ça serait vraiment formidable. Et je pense que des connexions comme ça, on peut en faire beaucoup. Et on peut déplacer. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis frappé par le silence. Il y a des choses comme ça. Bon, ce type de discussion qu'on a là maintenant, par exemple, on ne peut pas les avoir dans les médias, sur le marché des idées. C'est pas possible.
En vous écoutant, je repensais aussi au fait qu'il y a eu une tentative qui était pratique, que vous décriviez sur la question de l'assurance, qui était d'exclure les malades du sida de l'assurance. Et c'est quand même un foucaldien qui a très mal tourné, qui a été le fer de lance de cette
Absolument. Et à l'inverse, il y a eu quelque chose qui s'est passé l'année dernière de très important en Suisse. La Suisse étant le pays des assurances, des banques, donc des assurances, des réassurances. Il y a eu une déclaration de deux très grands assureurs suisses, qui sont deux très grandes banques suisses, qui se sont prononcées pour le protocole de Kyoto, contre pratiquement toutes les compagnies d'assurance européennes, en disant, parce qu'il y a une école de banque à Genève, avec des gens très très, vraiment très futés, très progressistes, comme on disait avant, qui essayent d'inventer des modèles. Et ils ont dit, il est inimaginable de maintenir la possibilité, c'était très proche de ce que vous disiez, la possibilité d'une société où on peut prendre des risques, donc on peut s'assurer, si on ne traite pas le problème des changements climatiques, etc. Et ça, c'est vachement intéressant. Parce que là, on est alors ça renvoie vers des questions type Beck, mais enfin. La façon dont ils ont posé le problème, et ça pourrait être confronté à ce que disait Evald, effectivement, enfin aux propositions d'Evald, pas simplement sur le sida, hein. Tout à coup, c'est une maturation d'un certain nombre de questions qui ont été très très théoriques et qui d'un seul coup deviennent extrêmement pratiques. Et je trouve que ce serait. Tu vois, si on arrivait.
Mais il y a quand même dans tout ça une question qui concerne la démocratie,
évidemment.
Comment est-ce que nous pouvons. Parler et nous parler de tout ça, c'est comment faire pour que ces questions ne soient pas. Là, je pensais évidemment que tu évoquais Jacques Rancière, le livre La haine de la démocratie. Enfin, il y a quelque chose, je trouve, là-dedans d'extrêmement fort qui consiste à dire finalement le monde est en train de retourner à quelque chose qui est de l'ordre d'une oligarchie. Enfin, c'est-à-dire, ça se débat pas démocratiquement. Et peut-être que du coup, par rapport à ce que tu disais, toi, Sébastien, tu dis héritage, dilapidation, moi, je pense qu'il faut peut-être aussi avoir toujours un troisième terme en tête, qui est celui, mettons, le juste, ou le partage, ou quelque chose de ce type-là, enfin, quelque chose qui est, à un moment donné, comment se partage la parole, comment se partagent les richesses, enfin, des questions qu'il ne faut pas perdre de vue, parce que si on perd de vue ces questions, ce qui est peut-être une tendance pour moi du livre de Jean-Pierre Dupuis, enfin, une forte tendance forte de ce livre, pas poser la question du juste,
je ne sais pas.
Et de là ?
Et de Jacques Rancière.
Oui.
Paradoxalement, lui qui parle de partage, qui le pose comme ça, n'en fait jamais.
Oui.
Parce qu'il peut, a priori, de toute façon, tous sont égaux, n'importe qui. Donc à partir de là, il n'y a plus la question de Cartage, ne sont plus. Les deux, de toute façon, menées a priori, ce qui est un point de vue.
Ah oui, mais non, moi je ne suis pas d'accord avec ça, avec ce point-là. Oui, je comprends ce que tu dis, oui. Oui, tout à fait. Oui.
Non, mais les deux entrées que je posais par rapport à cette question de l'héritage, c'était
d'une part transmission, d'une part on voit partage ou dilapidation. C'était ces deux termes-là par rapport à la notion d'héritage.
Parce qu'un héritage, ça se partage.
Mais oui.
Et ça donne en général des conflits de famille. Ça s'appelle la lutte des classes dans certains cas.
Le partage est bouffon de la démocratie.
Et
bon. C'est pas.